Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'État français veut céder jusqu'à 52% du capital de la Française des Jeux. La vente des actions débute aujourd'hui et elle est ouverte à tous. Le gouvernement veut en faire un succès populaire, mais est-ce possible ? Élément de réponse à suivre alors que les associations s'inquiètent d'une possible hausse des addictions aux jeux à cause de cette privatisation.
600 policiers sont mobilisés à la porte de la Chapelle au nord de Paris en ce moment. Ils doivent évacuer près de 1200 migrants, un recours à la force dénoncé par le Secours catholique.
La gauche se divise sur la marche contre l'islamophobie prévue ce dimanche. Frédéric Seitz y reviendra dans son billet politique après ce journal.
Et puis avant cela, nous irons en Italie où les patrons de stations-service sont en grève. Ils protestent contre le marché illégal du carburant. Il est gigantesque en Italie.
Et puis nous nous promènerons le long du mur de Berlin avec l'un des premiers artistes à l'avoir peint. Début des célébrations de la chute du mur, c'était il y a 30 ans. La privatisation de la Française des Jeux est lancée. Tout un chacun peut donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 novembre acheter une action, une part de l'entreprise avant son entrée en bourse. La fourchette de prix a été communiquée hier entre 16,50 € et 19,90 € pour une action de la FDJ avec un ticket d'entrée minimum de 200 €. L'État souhaite se désengager en vendant au total 52% de son capital. Il en espère près de 2 milliards d'euros, Anne-Laure Jumet.
Pour susciter l'intérêt, le gouvernement n'hésite pas à utiliser l'argument promotionnel. Il y aura ainsi une prime pour ceux qui garderont leur titre Française des Jeux plus d'un an et demi, une action gratuite pour 10 actions achetées et une décote de 2% sur le prix de l'action. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire revenir les particuliers vers les marchés financiers ? Depuis la crise de 2008, ils s'en sont détournés, trop risqués. Le nombre d'actionnaires individuels a ainsi été divisé par 2 en 10 ans. Cela dit, le contexte pourrait aider les épargnants à s'intéresser de plus près à la bourse et donc pourquoi pas à la Française des Jeux, une entreprise très identifiée. Le CAC 40 a atteint en début de semaine des niveaux qu'il n'avait plus connus depuis octobre 2007. Et avec les taux bas, les placements préférés des Français deviennent de bien mauvaises affaires, explique Luc Arondel, chercheur au CNRS et spécialiste des comportements d'épargne des ménages.
Ce qu'on voit, c'est que le rendement sur les produits sans risque et puis même sur les assurances vie en euros, ça rapporte pratiquement plus rien. Donc si vous voulez quand même espérer un peu de rendement, avec un risque supérieur aussi, il faut vous tourner plutôt vers des assurances du multi-support ou sur le marché boursier. Je pense qu'à long terme, les actions sont quand même un des placements les plus rentables.
Alors cette seule privatisation ne suffira pas à donner envie d'investir en bourse. Il faut, de l'avis des experts, recréer une dynamique globale, d'autant que selon l'adage bien connu des investisseurs, il faut bien prendre garde à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
La cession du capital de la FDJ par l'État valorise l'entreprise à plus de 3 milliards d'euros. Voilà ce qu'indique ce matin la patronne de la Française des Jeux. Voilà donc pour l'objectif économique de cette transformation qui débute. Elle pourrait avoir des conséquences sociales. Privatiser une entreprise qui produit des jeux d'argent n'est en effet pas anodin pour les observateurs et les associations de lutte contre l'addiction aux jeux. SOS Joueurs notamment met en garde ce matin par la voix de sa secrétaire générale Armelle Achour.
Qui dit actionnaire dit retour sur investissement. Ça semble logique et on sait que plus il y a de gens prêt à jouer, plus on aura d'addicts. Ça, c'est malheureusement mathématique. En ce qui concerne particulièrement les grattages, en 9 ans, on est passé de 14% de problèmes d'addiction au grattage à 35%. C'est énorme. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus modestes que les autres. Financièrement, ce ne sont pas des gens qui ont vraiment des gros revenus. Beaucoup de personnes fragiles aussi. Donc on a très peur que, effectivement, à partir du moment où il y a de nouveaux actionnaires qui rentrent sur le marché, il y ait une volonté accrue de faire du bénéfice.
Et Bercy a déjà répondu à cette inquiétude. La FDJ assurera les mêmes garanties de jeu responsables. L'État français conservera avec 20% de ses actions restantes un droit de regard sur la conduite de l'entreprise. Voilà ce que dit le ministère de l'Économie. Des camps de migrants sont évacués en ce moment même dans le nord-est parisien à la porte de la Chapelle. 600 policiers sont mobilisés pour cette opération qui doit concerner environ 1200 migrants. Voilà ce que dit la préfecture de police de Paris. Le préfet de région, Michel Cadot, estime lui que cette évacuation va permettre de reconquérir normalement l'espace public de manière stabilisée. Réponse du Secours catholique ce matin qui alertait sur la pauvreté des immigrés. Le directeur du plaidoyer France-Europe de l'association regrette la mobilisation sécuritaire porte de la Chapelle en ce moment. Écoutez Jean Merkert.
ce matin, là où on ne va pas blâmer le gouvernement de réagir enfin à une situation qu'on dénonçait depuis des mois, là où on attendait un geste d'hospitalité, on envoie 600 policiers à 5h du matin. C'est-à-dire qu'on a une France qui vient montrer ses muscles avec le ministère de l'Intérieur. Là où nous, on attendrait une France qui ouvre les bras, qui tend une main. On attendrait le ministre du Logement, on attendrait le ministre des Affaires Sociales. Parce qu'aujourd'hui, les plus pauvres de France, les personnes que l'on s'habitue à faire vivre dans des conditions infrahumaines, eh bien, ce sont les personnes étrangères. Et c'est pour ça qu'on voit ces personnes de plus en plus à la porte du Secours catholique. C'est pas parce qu'il y a plus d'étrangers en France. Ça, c'est une idée reçue. C'est parce que les politiques sont de plus en plus répressives et restrictives à l'égard des étrangers qu'on les voit de plus en plus chez nous.
Effectivement, le Secours catholique alerte ce matin via son rapport annuel basé sur les témoignages des personnes qu'elle accompagne. L'année dernière, 43% des personnes pauvres accueillies étaient étrangères. Une proportion qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Voilà ce que dit l'association ce matin. Après l'Assemblée nationale, le Sénat valide le texte sur les féminicides. Un vote à main levée hier soir en l'absence des élus de gauche qui avaient quitté l'hémicycle pour protester contre un rejet systématique de leurs amendements. La proposition de loi prévoit notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Elle prévoit aussi de rendre les ordonnances de protection plus efficaces. Les associations dénombrent en France 129 féminicides depuis le début de l'année. Des violences envers les femmes qui sont plus nombreuses sur l'île de la Réunion, où se rend la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Depuis le début de l'année, 1492 femmes y ont été agressées, Pierre Neveu.
Il aura fallu en début d'année un rapport de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, pour prendre toute la mesure du problème sur l'île. Violence physique, violence sexiste, emprise psychologique. Chaque jour, 6 plaintes sont déposées. À La Réunion, une femme sur 20 rapporte des faits de harcèlement sexuel au travail. Plus de 7 femmes sur 10 expliquent avoir été victimes d'insultes ou sifflements dans la rue ou dans les transports en commun. Mais c'est à la maison que la femme déclare des faits de violence graves, menaces de mort, tentatives de meurtre, menaces sur les enfants. À chaque fois, ces chiffres sont plus élevés qu'en métropole. Les députés Erika Barakts et Nadia Ramassamy demandent davantage de moyens à la secrétaire d'État, des moyens humains et financiers, commissariats, services sociaux, tribunal spécifique. Il faut savoir que les gendarmes de Lille n'ont qu'un seul groupe de lutte contre les violences intrafamiliales. Avec 5 décès en 2018, La Réunion est le 2e département comptant le plus haut taux de féminicide par habitant de France. Mais La Réunion n'est pas le seul territoire ultramarin touché par ce fléau. On enregistre toujours plus de plaintes en Guyane, en Martinique ou encore à Mayotte.
Elle n'a pas déposé de plainte, mais elle témoigne. La comédienne Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et d'agression sexuelle alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans. La justice ouvre une enquête préliminaire, notamment pour agression sexuelle sur mineurs. Le cinéaste, lui, nie les faits, mais il parle d'erreur et il demandait hier pardon à l'actrice. Damien Abad est le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le député de l'Ain a été préféré au favori Olivier Marleix. Il emporte 64% des voix contre 64 voix contre 37 à l'Assemblée nationale. Et il prend donc la suite de Christian Jacob, président du groupe Les Républicains. Le parti Les Républicains qui, par ailleurs, a investi officiellement sa candidate pour les municipales à Paris, ce sera Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, ancienne ministre de la Justice. Les municipales, elles auront lieu dans 4 mois maintenant. Et pendant les semaines qui viennent, tous les jeudis, nous nous pencherons sur France Culture sur la situation d'une ville dans nos journaux. Ce matin, partons à Lyon où l'on va voter pour le maire de Lyon et le président de la métropole. La campagne est polarisée sur Gérard Collomb, un temps ministre de l'Intérieur, à la tête de Lyon depuis 2001, depuis 18 ans. Il part avec l'investiture de La République En Marche. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Mathilde, cette étiquette LREM est bien utile face à des appétits grandissants par ailleurs.
Oui, la campagne est réellement lancée à Lyon depuis que La République En Marche a fait part de son choix, investir Gérard Collomb. Un tout premier sondage nous dit que cet appui ne dessert pas l'ancien ministre de l'Intérieur, bien au contraire. Il est crédité de 30% des intentions de vote aux élections métropolitaines, selon une enquête Opinionway réalisée pour le compte de Lyon Mag. Son ex-dauphin et actuel président de la métropole, David Kimmelfeld, est à 20 points derrière. derrière. Délaissé par les marcheurs, il a décidé de partir en campagne sans appareil derrière lui. L'étiquette ferait donc encore la différence, sans compter le décalage de notoriété entre les deux hommes. Les réseaux tissés par Gérard Collomb dans sa ville semblent à ce stade lui offrir un confortable socle, et l'électorat ne sanctionnerait pas sa parenthèse Place Beauvau d'avoir déserté en clair Lyon en début de quinquennat Macron. Une fidélité à Gérard Collomb qui se confrontera à une réalité plus cruelle. Une partie des électeurs LREM s'apprête à passer dans les rangs écolo. 15% des Lyonnais qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 voteraient vert cette fois-ci.
Et Mathilde, Europe Écologie Les Verts serait donc la véritable menace pour la majorité Gérard Collomb ?
Oui, Europe Écologie surfe sur sa remarquable percée aux européennes. Leur candidat à la métropole de Lyon est donné à 21%. Bruno Bernard, pourtant une figure inconnue du grand public. Idem pour leur candidat à la ville de Lyon. Grégory Doucet est en tête des intentions de vote. Preuve encore que l'étiquette du parti reste primordiale. Alors une précision, vous l'avez dit, mais tout de même, pourquoi se bat tout ce petit monde, et en particulier Gérard Collomb ? C'est bien pour la métropole de Lyon, hein, plutôt que la ville. C'est la deuxième agglomération de France, un budget à 3 milliards d'euros qui permettra à celui qui en prendra les rênes de laisser une empreinte profonde.
Merci beaucoup Mathilde Imberti pour ces précisions politiques sur les municipales à Lyon. Et nous retournerons à Lyon dans le journal de midi et demi et celui de 18h aujourd'hui jeudi.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les stations-service d'Italie sont en grève depuis hier et jusqu'à demain matin.
Oui, les gérants de ces stations essence dénoncent des taxes trop importantes dans le pays, mais aussi et surtout le marché illégal du carburant en Italie. Cela a même poussé de grandes compagnie pétrolière a quitté l'Italie. Bruce de Galzin a rencontré ses gérants de stations essence, démunis et en colère.
Sa station-service est située dans Rome, derrière le Vatican. Pasquale Migliorino est gérant depuis 50 ans pour la compagnie pétrolière Tamoil, mais il vend son carburant bien plus cher que ses concurrents.
Là où je me trouve, il y a trois autres stations-service dans un périmètre de 300 mètres qui vendent le litre 35 centimes moins cher. Moi, je paye régulièrement, j'ai toujours fait mon travail avec honnêteté et professionnalisme.
Pasquale est obligé d'acheter son carburant à sa compagnie pétrolière, mais en Italie, un tiers des stations-service n'ont pas de marque et n'hésitent pas à se fournir illégalement, dénonce Martino Landi, le président de la Fédération italienne autonome de l'essence.
Il y a des sociétés qui fraudent avec un administrateur de 90 ans qui n'a plus rien à perdre et qui fait croire que le carburant qu'il achète sera exporté et donc exonéré de TVA. Mais ce carburant, il le revend sans taxe aux distributeurs en Italie. Il y a aussi ces files de camions qui viennent de Slovénie. On ne sait pas exactement où ils vont.
Et pourtant, la garde des finances multiplie les contrôles, 128 000 en un an et demi. Mais elle estime encore le marché illégal à 15% du carburant distribué. C'est un manque à gagner de 6 milliards d'euros pour les caisses de l'État chaque année.
L'Iran a repris ce matin ses activités d'enrichissement d'uranium à l'usine souterraine de Fordo. L'organisation iranienne de l'énergie atomique le confirme. Un pas qui éloigne un peu plus Téhéran de l'accord de Vienne signé en 2015 sur sa dénucléarisation. Dans deux jours, l'Allemagne célébrera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. À cette occasion, France Culture diffusera des émissions et des podcasts consacrés à cet événement. Et ce matin, nous avons sélectionné pour vous des œuvres d'art inspirées par le mur. Des œuvres connues, cachées, réalisées pendant ou après la guerre froide. Elles sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. C'est un dossier monté par Élise Delève, qui a notamment choisi les peintures de l'artiste de rue Thierry Noir, un Lyonnais parti s'installer à Berlin en 82 alors qu'il n'y connaissait personne. C'est le premier artiste à avoir peint sur le mur de Berlin. Voici la rencontre avec Thierry Noir, rencontre avec Élise Delève.
1982, il fait froid sur Berlin. Thierry Noir vient d'arriver et cherche un logement et il pense à Lou Reed. In Berlin,
by the wall. J'ai dit, bah tiens, je vais faire comme dans la chanson de Lou Reed. Je vais marcher le long du mur là, et je vais trouver la maison dont il parle. Et c'est arrivé vraiment comme ça, au bout de 100 mètres. Je me suis dit, bah là voilà la maison. Et j'ai habité dans cette maison pendant 20 ans.
Cette maison, c'est un ancien hôpital transformé en squat, un centre de la culture underground de l'époque. Thierry Noir vit à quelques mètres du mur.
C'était pas angoissant, c'était plus ou moins mélancolique. C'était une angoisse douce où il se passait pas grand-chose. J'ai jamais vu les soldats tirer ou quelqu'un se faire arrêter. Non, il se passait rien du matin au soir et même la nuit. Donc, à force de vivre comme ça pendant 2 ans, je me suis rendu compte que je venais un peu cinglé et j'ai décidé de faire quelque chose spontanément et c'est là que ça a bouleversé ma vie.
L'artiste sort ses pinceaux et les fait glisser sur le mur de Berlin. personne n'avait osé avant lui.
Il ne fallait pas juste peindre sur le mur, mais d'expliquer pourquoi. Ben, je discutais avec les passants, les voisins qui m'insultaient, qui me demandaient tout un tas de questions, parce que c'était nouveau, la peinture sur le mur. C'était vraiment un tabou, et même les artistes allemands ne peignaient pas le mur.
Thierry Noir passe plus de temps à parler qu'à peindre. Il décide alors de faire simple et rapide. Une tête, trois couleurs, son style est né. À l'époque, le Lyonnais peint pour faire disparaître le mur. Aujourd'hui, il le peint pour le garder. En 90, il a créé avec une centaine d'artistes la East Side Gallery, 1,3 km de murs conservés grâce aux peintures. Paradoxe de l'histoire.
C'était Élise Delève et vous pouvez retrouver ses œuvres d'art inspirées par le mur de Berlin sur franceculture.fr. Un article y est très détaillé, imagé et argumenté. Une perturbation pluvieuse arrive par la façade atlantique ce jeudi. Elle s'étendra jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la matinée, laissant à l'arrière un ciel plutôt ensoleillé. Et ce matin, les températures sont homogènes, entre 10 et 11 degrés au nord de la Loire, 12 degrés à Bordeaux et 16 degrés à Marseille.